Bon, alors je commence, hein, je crois que la porte est plus ou moins fermée. Donc, je suis Anne Larue, je suis prof à l'université Paris 13, Sorbonne, Paris Cité, autrement dit Paris 13, quoi, ville tanneuse. Et j'enseigne des matières comme littérature, histoire de l'art, un peu philosophie selon les moments. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de humain-animal. Ça va être très rapide, hein, je vais parler pendant à peu près 40-45 minutes. Sur les rapports entre humain-animal en philosophie, puis ensuite on abordera la science-fiction et on finira par l'art contemporain. Donc trois points de vue, disons, rapides sur la question. Alors, donc il y a encore du monde qui arrive. Bon, ben, on ferme la porte, hein, je commence. Vous pouvez fermer, s'il vous plaît ? Merci. Oui, donc j'ai simplement fait ma présentation et dit que j'allais parler d'humain-animal à travers philosophie, science-fiction et art pour résumer ce que je viens de dire. Alors je remonte pas aux vampires et aux loups-garous naturellement, mais peut-être déjà à ce qu'on pourrait appeler la terreur de l'hybridation à travers l'île du docteur Moreau de Wells, qui date de 1896 et qui décrit, tout le monde le sait, l'horreur et la souffrance des animaux humanisés par des animaux humanisés. On leur fait des greffes à vif, des opérations horribles, et c'est décrit comme des monstres. Donc, sur la première image, vous voyez donc la transformation de la bête en humain, et sur la deuxième, ça c'est une couverture de livre, hein, de l'île du docteur Moreau en anglais, vous voyez comment le type universel dont on parlait ce matin pour Selleux qui était à la table ronde sur le féminisme, du mâle blanc, cis, hétéro, enfin l'espèce de mâle de base qui n'existe pas, qui est une espèce de figure mentale du patriarcat, une espèce d'image à laquelle tous les hommes réels sont censés coller, est menacé subtilement par la bête derrière, vous voyez l'animal humain qui apparaît derrière avec ses yeux très inquiétants et ses griffes, et on sent que cet homme idéal devant est méchamment menacé, si on peut dire, par la bête qui est derrière. Alors quand on lit l'île du docteur Moreau, peut-être de façon un peu plus précise, on se dit d'abord que c'est extrêmement partial, puisqu'une greffe en soi n'est pas forcément une horreur, hein, une greffe peut être parfaitement salvatrice, et si on va plus loin, on peut se demander s'il n'y a pas un rôle assez important de l'imposition d'une sorte de loi édictée par Moreau lui-même. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Moreau se met en position de maître ou de dieu par rapport aux animaux, enfin aux animaux humains, et enfin, je prends un exemple, hein. Ne pas marcher à quatre pattes, c'est la loi, avec un L majuscule. Ne sommes-nous pas des hommes, avec un H majuscule. Alors, cette espèce d'emphase, cette espèce de style, la loi, on retrouve finalement une sorte de régime imposé aux humains qui est d'emblée celui, très vertical, avec un dieu au-dessus, du patriarcat inquiet de voir ses prérogatives affaiblies par la nouvelle perspective de l'hybridation. Donc ce qui se passe finalement, qu'est-ce que c'est que ce savant fou Moreau, et qu'est-ce qui est terrifiant avec Moreau, c'est qu'il risque de faire vaciller la civilisation patriarcale en introduisant un animal dans la lignée humaine. C'est ça le crime du docteur Moreau, qui travaille les bêtes à vif pour les transformer en humains. Et ça remet en cause finalement toute la valorisation de l'homme, avec un grand H, tout en haut de la pyramide de la création, avec un grand C, autrement dit, tout ce qui repose sur les préjugés bibliques, en l'occurrence, de cette civilisation que je suis en train de décrire. Donc, en fin de compte, le refus de l'hybridation animale apparaît ici d'emblée comme une forme de défense de la structure patriarcale sous-jacente, sur la description de laquelle je vais revenir rapidement après. Donc, non, c'est pas encore ça. Donc, je reste sur cette image pour l'instant. Alors, si on réfléchit au rapport humain-animaux aujourd'hui, la vache folle, H5N1, le virus Ebola, bon, on voit comment finalement le rapport humain-animal est marqué par une inquiétude à la Wells, si on veut, d'être fécondé, transformé par les animaux. Et il y a une véritable angoisse autophagique, un peu comme si on se mangeait soi-même, qui apparaît au moment notamment de l'histoire de la vache folle. Alors, l'histoire de la vache folle est surprenante, parce qu'il y a toujours eu des maladies qui se passaient de l'humain à l'animal inversement, et d'un seul coup avec la vache folle, ça devient quelque chose de terrible. Alors, c'est comme une prise de conscience. Il y a cet article dans Le Monde diplomatique du août 1990, je crois, où il est question de l'autophagie. L'humain se mange lui-même en mangeant la vache. Autrement dit, d'un seul coup, il n'y a plus de frontière entre l'humain et l'animal, et c'est quelque chose qui est ressenti comme absolument terrifiant. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait une dimension épidémique, naturellement, qu'il n'y avait pas forcément eu dans d'autres types de maladies. C'est peut-être aussi parce que 1996, c'est l'année de Dolly, hein, Dolly, la première brebis clonée. Donc ces choses-là peuvent être mises entre... Enfin, l'inquiétude animale humaine grandit. J'ai oublié de citer au début le célèbre livre de Frank Hemel. Frank étant une fille, hein, Frank Hemel, c'est une fille qui a écrit un livre qui s'appelle Les animaux humains, où il y a vraiment tout ce qu'on veut sur les animaux humains dans ce bouquin. Il est dans la collection L'aventure mystérieuse du cosmos et les civilisations disparues. Vous savez, les petits bouquins rouges qui étaient publiés par les fous du matin des magiciens dans les années 70. Hein, donc ça reprend cette époque-là. Alors, je passe sur la grippe aviaire, je passe sur le virus H5N1, et j'en arrive au virus Ebola, qui est transmis par les chauves-souris, ce qui réactive la vieille peur du vampire, dont les romans de fantasy ont fait leur chou gras. Alors, si on réfléchit à la fantasy vampiresque, qu'est-ce qui se passe en fantasy vampiresque? Je pense à Anita Blake, à Charlene Harris, à Stephanie Meyer. La fille combat les monstres, mais en même temps, elle les apprivoise. Et en même temps, il est normal de vivre au milieu des monstres. Hein. On voit au début de Charlene Harris, c'est les romans qui ont donné ensuite True Blood, la série True Blood, c'est la même chose. On voit comment on vit au milieu des vampires, et maintenant c'est comme ça, il y a des vampires partout. Et puis pas que des vampires, il y a aussi des métamorphes, il y a aussi des hommes panthères. Alors finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que l'hybridation humain-animal, dans la littérature de fiction de ce style, la littérature de l'imaginaire, elle est en avancée par rapport aux peurs, si j'ai envie de dire, de l'hybridation à la Wells. Elle est portée en avant et c'est finalement un plaidoyer pour l'hybridation. On a le frère de Suki qui est un homme panthère, la petite fille de Bella qui est mi-vampire, mi-humaine, etc. Donc il y a dans ces romans un plaidoyer pour le métissage et l'hybridation qui se manifeste aussi par les thématiques. Je pense à ces romans de vampires où il est question d'une fille qui est mi-mage, mi-vampire, elle a donc les deux héritages. Enfin, c'est toujours des histoires de métissage et d'hybridation, et notamment avec la partie animale. Donc finalement, on a une sorte de cisaillement. D'un côté, la terreur, je qualifie à la Wells d'être hybridée par des animaux. Et ce qui a des conséquences juridiques, on se dit quand même le propre de l'homme. Que devient le propre de l'homme et que deviennent les notions juridiques, comme par exemple le crime contre l'humanité. S'il n'y a plus d'humanité, est-ce qu'il y a encore crime contre l'humanité? On a un problème définitoire. Là. Donc il y a des tas de gens qui ont tout intérêt à poser la frontière entre l'humain et l'animal, pour sauvegarder le droit, des tas de choses comme ça. Et puis en même temps, on assiste aujourd'hui à l'effondrement en cours de l'idée patriarcale qui conduit finalement la littérature populaire à envisager de façon beaucoup plus tranquille l'hybridation entre les espèces. Quant à la science, elle réalise concrètement cette hybridation. On verra à la fin comment des chercheurs anglais ont hybridé des humains et des animaux et le tollé que ça a soulevé sur Internet. Donc alors, il faut en repasser par le patriarcat comme, je dirais, système global de pensée. Tiens, ça c'était le virus Ebola, on voit comment... Donc on part du vampire, enfin de la chauve-souris, ça passe ensuite en épizootie à travers les animaux, et ça arrive aux humains symbolisés à côté. Donc ça c'était pour montrer un petit peu l'ambiance de True Blood, avec tous les animaux humains les plus bizarres, la présence d'animaux et d'humains dans le même espace mental, avec cette espèce de serpent ici, qui n'est pas sans évoquer la Bible, mais qui malgré tout se déroule au milieu de ces personnages. Et ici, on va mettre Sam le métamorphe, donc qui se transforme en tout ce qu'il veut comme bestiole, et qui est un brave type très sympa, qui porte un nom de vin. Il y a Merlot quelque part. Je pense que c'est copié tout simplement du Merlot, hein, du vin français Merlot. Tout ça, le bon vin français, tout ça, ça paraît bien sympathique. Alors, je mets rapidement un de mes bouquins qui s'appelle Dis papa, c'était quoi le patriarcat, où j'ai essayé de montrer que le patriarcat était une sorte de méga civilisation, un système global de pensée. Et un outillage mental de certains peuples qui ont emporté finalement beaucoup de civilisations particulières. Alors, c'est pas très ancien, ça a 6000 ans d'âge à peine. Ça s'est imposé à l'essentiel des peuplements humains, disons, sur la Terre. Il reste des poches, naturellement, qui vivent suivant d'autres préceptes. Mais ces poches, en général, niées, minorées, on n'en parle pas dans le discours culturel. Donc, pour qu'une chose n'existe pas, il suffit de ne pas en parler. Mais malgré tout, cette idée commence à se lézarder, et ce qui est intéressant pour nous ici, c'est de voir comment elle se lézarde avec au centre la question, non pas des femmes, ni des enfants, ni des vieillards, ni rien, mais justement des animaux. C'est la question des animaux qui est finalement assez centrale dans le patriarcat. Alors ça, c'est pas nouveau. Si je prends un grand texte patriarcal fondateur, l'Iliade d'Homère, on a deux peuples. On a les Troyens et les Achéens. Les Troyens sont ceux qui ont perdu, les Achéens sont ceux qui ont gagné, les Achéens sont les patriarcaux et les Troyens sont des non-patriarcaux. Et quand on voit brusquement l'Iliade à la lumière de cette lecture, on est frappé de voir comment ça se passe chez les Troyens et comment ça se passe chez les Achéens et comment l'animal joue un rôle central. Alors, chez les Troyens, c'est Hector. Il s'est dit responsable, dit le texte, devant les Troyennes et les Troyens. Alors, il y a tout un baratin, les Troyennes au long voile et les Troyens comme ci, comme ça. Bon, je passe le détail, mais disons, c'est les Troyennes et les Troyens. Vous avez des figures féminines importantes. Hein, pensez à Cassandre, à Hécube, à Andromaque, Hélène, hein, même Hélène de Troie, qui parle, hein, qui n'est pas du tout un personnage muet, comme elle apparaît dans l'autre camp. Vous avez la présence d'un enfant, Astyanax, il n'y a pas d'enfant côté achéen. Et vous n'avez aucun cadeau fait sous forme de femme. Les femmes ne sont pas des objets, elles sont des citoyennes à part entière. Et, j'insiste là-dessus, aucun sacrifice animalier côté troyen. Zéro sacrifice animalier. Maintenant, je passe du côté des Achéens, les vainqueurs. Mépris absolu des femmes. À un moment, on dit « Tu auras, bon guerrier, une femme ou un trépied. » Alors, un trépied, c'est un objet de décoration, mais ça vaut une femme. Alors, on voit comment la femme est un cadeau. Elle n'a pas valeur d'humain. C'est un objet. Il n'y a naturellement aucun enfant. Pardon ?
Il me semble même que c'est le début de la rix entre Agamemnon et Achille.
Oui, qui commence à discuter. Mais oui, une tuera, Achille tuera des lesbiennes. Il ne sait pas, il n'a pas lu Wittig, il ne sait pas que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Mais il lui dit, tu auras 10 lesbiennes, des filles de la Cédémone, hein. Tu auras 10 femmes, tu auras un trépied, etc. Et l'autre dit, c'est comme ça, et je m'enferme dans ma tente. Donc on est vraiment dans un monde complètement différent. Il n'y a pas d'enfants, pas un seul. Et alors les sacrifices animaliers, mais vraiment, festonne le texte. Alors il y a des choses comme par exemple, le coup tendre des agneaux subit la force du bronze, enfin bon, des métaphores directes. Donc on tue les animaux quand il y a le bûcher de Patrocle. C'est de la folie, les sacrifices animaliers, tous les animaux sont tués. Et à la fin, on voit une colombe, alors on se dit, ah, ça va être merveilleux, la colombe va s'essorer dans les airs. Pas du tout, elle est foudroyée avec une flèche et elle tombe, on croirait Mars attaque. Hein. C'est un peu ça l'idée. Alors en patriarcat, finalement, vous voyez comment ça s'enchaîne. En patriarcat, mépris des femmes et des enfants, mépris des animaux et une structure politique basée sur l'esclavage, puis sur le fait qu'on considère un humain comme un objet. Hein. Et par la suite, d'autres formes capitalistes d'autres formes politiques vont prendre le relais, hein, comme le capitalisme, qui prend le relais de l'esclavage originel. Hein. Alors, ça suppose donc quoi tout ça ? Structure verticale du pouvoir, une pyramide, une certaine conception de la mort qui est très inquiète, sur laquelle nous vivons encore en tant que peuple issu du patriarcat, enfin qui est encore dans le patriarcat, disons. C'est-à-dire, il n'y a pas de salut hors l'héroïsme et la gloire, donc le star system, un tout seul qui parle et les autres qui écoutent, ça, il n'y a rien de plus patriarcal que cette structure. Interrompez-moi tant que vous voulez, c'est insupportable, il y en a un qui parle et les autres qui se taisent. Ça, c'est une structure typiquement patriarcale. C'est pour ça les rôlistes en bas qui se réunissent pour jouer. C'est moins patriarcal que la structure des auteurs qui sont là, signeurs, machin. Enfin, c'est complètement pas du tout la même chose. Hein. C'est pas le même rapport au monde. Alors finalement, la gloire.
Si on peut.
Oui, ben vas-y, interromps, vas-y.
Là, on se tutoie, parce qu'on se connaît.
Oui.
Tu dis à l'instant le capitalisme qui prend la suite de l'esclavage.
Oui.
J'aurais plutôt dit que ça s'est construit sur l'esclavage.
Ah bah si tu veux, oui, bah, oui. De toute façon, le capitalisme, c'est une forme d'esclavage. On pense au capitalisme lourd, hein. On pense aux zones franches industrielles décrites par Naomi Klein dans Nos Logos et dans le choc du... le capitalisme du choc, on pense à tout ça, on pense aux jeunes filles qui font vivre toute leur famille en travaillant 14 heures par jour, c'est ce capitalisme-là, hein. C'est vrai que c'est encore une forme d'esclavage.
Ça passe par l'assujettissement des humains, des animaux, etc.
Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire... Et qui passe par ces systèmes bipartitionnés où d'un côté on a l'homme blanc comme modèle et de l'autre tout le reste. Les femmes, les animaux, les colonisés, les vieux, les enfants, tout ce qu'on peut imaginer comme catégorie, il y a vraiment la bipartition, un contre tous, et c'est ça le patriarcat. Et c'est aussi un certain formatage de la mémoire collective. Bon, c'est vraiment ce que reprend Tolkien, hein, Gloïm, fils de machin, une filiation uniquement masculine. Ça, c'est le. Bon, tout ça, c'est. Alors voilà le système mental. Et ce système mental, il est en train d'être battu en brèche en tant qu'idée. C'est-à-dire qu'on commence, ça commence à se décoller. Le fait même qu'aux utopiales, on puisse parler d'autre chose, enfin on en parle, c'est déjà une chose extraordinaire. Il y a 3 ans, on n'en parlait encore pas. Hein. Et là, on en parle, on se dit quand même, est-ce qu'on est obligé de suivre la performance de genre qu'on nous oblige à subir quand on est fille, quand on est homme, et qu'est-ce que c'est que ça, être fille, être homme, être femme, être homme, est-ce que c'est toujours pareil? Bon, donc il y a une espèce de mouvement de réflexion qui commence à s'amorcer, et comme par hasard, avec les animaux, on s'intéresse de plus en plus aux animaux, pour eux-mêmes. Donc on va essayer de s'intéresser rapidement à simplement cette corrélation. Alors je pense, les animal studies aux USA qui se développent, hein, l'étude des animaux pour eux-mêmes, les mouvements de libération animale, la réflexion sur les animaux de laboratoire, Elisabeth de Fontenay, le silence philosophique des bêtes, son livre sur les silences philosophiques des bêtes, la publication d'ouvrages de vulgarisation de zoothérapie, hein. Donc tous ces trucs-là, ça paraît débile, hein, la zoothérapie soignez-vous par les animaux, mais en même temps, ça fait partie du même mouvement. Il y a l'horrible dictionnaire horrifié de la souffrance animale qui date de 2010, écrit par Alexandrine Sivard-Racinet, tout ce mouvement veggie, tout ce mouvement de droit des animaux, et la création du mot spécisme. Comme on dit sexisme ou racisme, on dit spécisme, c'est-à-dire idéologie qui justifie l'exploitation d'un être en étant basé sur son espèce. Vous voyez comment ça peut être une forme de le spécisme. Donc, comme c'est un animal, il est donc exploité. Donc, ça veut dire qu'on, brusquement, l'animal en soi commence à intéresser. C'est plus seulement l'animal de laboratoire. La souris Onkoma, aussi, qui a fait les délices de Donna Haraway dans le début de sa carrière philosophique, c'est plus l'animal en soi. L'animal, on se demande qui est cet être qui est près de nous, face à nous, et qui existe aussi pour lui-même. Et c'est d'ailleurs le travail de Donna Haraway dans son récent bouquin sur les espèces de compagnie, où elle se dit, le chien et moi, on a un lien. Elle est elle, sa chienne, et moi je suis moi. Et ensemble, on développe un lien très particulier, interespèce, qui est très spécifique. Elle est pas en train, c'est pas un guide, comment élever votre chien et lui apprendre à faire de l'agility, c'est pas ça. Hein. C'est ça l'idée. Alors, parlons de l'espèce. L'espèce est une fausse notion, c'est une notion purement empirique et qui ne résiste absolument pas à l'examen poussé. Alors on dit par exemple, ah, l'espèce ça a du sens parce que les animaux hybrides ne peuvent pas se reproduire entre eux. Alors là c'est faux, les mulets se reproduisent entre eux et pas seulement, il y a des tas d'hybrides extraordinaires, il y a même des hybrides qui sont devenus des chats à part entière, on pense aux chats du Bengale qui au début sont des hybrides, enfin, et donc qui sont devenus des vraies véritables races qui se reproduisent. Donc c'est absolument faux que les espèces... il y aurait une barrière de l'espèce. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire la grippe aviaire, les machins fongiformes, la vache folle, il n'y a pas de barrière de l'espèce. L'expression barrière de l'espèce revenait sans arrêt dans les années 90 d'ailleurs. Alors en plus, si on réfléchit à la notion d'espèce, elle ne concernerait que les sexués. Or les sexués, c'est même pas 10% du règne animal. C'est très rare, la reproduction sexuée dans l'immensité du règne animal, c'est rare. Donc finalement, c'est de l'anthropomorphisme, de l'anthropocentrisme irréfléchi. Ça repose là encore sur un réflexe biblique et non scientifique. Alors je citerai le livre « Ni Dieu ni gène » dans lequel les auteurs écrivent « L'espèce est une notion métaphysique, la croyance en son existence » ressorti toujours à une idéalisation du monde et non à sa réalité. Donc c'est page 59 dans « Ni Dieu ni gène » par Jean-Jacques Cupiec et Pierre Sonigo qui sont des scientifiques spécialistes de l'hérédité et qui disent qu'il faut se débarrasser complètement de la notion d'espèce. Alors tout ça, ça va dans le même sens et j'appelais ça la philosophie de « on est bien peu de choses ». Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Alors ça commence avec Galilée qui montre que la Terre n'est pas au centre, après on découvre qu'on n'est même pas au centre de la fichue galaxie, et après vous avez l'astronome américaine Vera Rubin qui étudie les galaxies spirales et qui montre que 90% de la matière de l'univers est composée de matière noire. C'est elle qui a pesé hein, la matière noire, enfin pesé, si je puis dire, elle ne l'a pas mise dans une balance, hein. Mais enfin elle a pesé la matière noire dans l'univers, elle a étudié tout ça, tout en étudiant la galaxie d'Andromaque qui tournait comme ça, elle s'est demandé, elle a découvert la matière noire, et quand même 90% c'est de la matière noire. Alors, donc toute cette inquiétude, c'est le pompon j'ai envie de dire, c'est-à-dire que plus ça va, plus l'humain n'est pas grand-chose, enfin est bien peu de choses par rapport à la vision qu'il a du monde et du cosmos. Donc finalement, tous ces mouvements, aussi bien le féminisme, aussi bien les mouvements sur les animaux ou le cosmos, enfin la science, tout ça, ça décèle les convictions ancrées, ça décèle l'anthropocentrisme, les croyances se fissurent, et pour certains, c'est très dur de renoncer à l'homme, ce parangon des animaux, pour citer Hamlet de Shakespeare. Dès lors, quand en 1985, donc Donna Haraway La voilà, alors Donna Haraway, elle a été, vous voyez à côté c'est Ghost in the Shell, elle est transformée en cyborg dans Ghost in the Shell, c'est tout à fait, elle a à gauche c'est son portrait véritable, et à droite c'est le portrait qui est fait d'elle dans le japanime bien connu. Vous avez le quatrième épisode qui passe, peut-être pas aujourd'hui, mais dans le programme de cinéma, le quatrième épisode de Ghost in the Shell sort ici, on peut le voir ici. Bon, fin de la parenthèse. Alors qu'est-ce qu'elle écrit cette Donna Haraway, donc qui est une philosophe américaine qui a travaillé à la fois qui est scientifique au départ, spécialiste de zoologie et de toutes sortes de biologie, etc., et qui ensuite a travaillé sur la conscience, histoire de la conscience. Et donc, il travaille sur un féminisme socialiste ironique. Quel socialisme féministe ironique est possible pour le 21e siècle ? Alors, je ne vais pas entrer dans sa théorie, je vais simplement citer sur l'animal. Ni le langage, ni l'outil, ni le comportement social, ni ce qui se passe dans notre tête ne justifie plus de manière vraiment convaincante la séparation de l'humain et de l'animal. Donc il faut arrêter d'opposer humain et animal, rien ne le justifie, et cette frontière n'existe plus en science. Avec les cellules souches, le clonage, la licence hybride, de fait, il n'y a plus de différence, enfin, on ne peut plus arguer d'une barrière entre l'humain et l'animal. Donc, Donna Haraway développe un texte sur les cyborgs, hein, principalement sur la cyborg. C'est traduit la cyborg dans la traduction allemande. Le traducteur allemand a compris qu'il s'agissait de la cyborg. Les traductrices françaises ont traduit le cyborg assez bizarrement, donc on ne comprend pas très bien le texte traduit en français. Vaut mieux le lire en américain ou en allemand, c'est plus facile à comprendre. Donc on est avec cet animal dont on se rapproche, on est dans un monde post-genre. La cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre, et c'est fini pour cette idée très pénible de mâle blanc dominant supérieur comme modèle érigé par rapport à tout le reste. Là-dedans surgit la cyborg, qui est née des bas-fonds du capitalisme, mais qui n'a aucun devoir de gratitude envers son père, si j'ose dire, le capitalisme industriel, façon guerre des étoiles, qui fait tout autre chose. Donc, cette nouvelle cyborg invente un nouvel ordre du monde. Elle balance la reproduction genrée aux orties, elle balance sa serpillière féminine à passer dans la cuisine aux orties, et elle change de monde et elle devient la réplicante, elle devient Rachel, hein, Rachel dans Blade Runner, c'est-à-dire la réplicante qui se... La reproduction est celle de la fougère ou des salamandres, c'est plus cette reproduction sexuée, genrée, et elle n'a plus donc que faire d'Oedipe. Et le paradis, le jardin d'Éden, ça ne lui dit plus rien. Être poussière et retourner à la poussière n'est plus une thématique qui intéresse les cyborgs d'aujourd'hui. Donc cette nouvelle cyborg va de pair. Vous voyez comment finalement, à travers cette figure de la cyborg et cette évolution concrète de la science vers l'animal, vers l'humain-animal, véritablement réalisé, finalement, on vit dans un monde dont Donna Haraway dit qu'il n'a pas de raison de faire peur. Elle conclut, le monde cyborgien pourrait être un monde de réalité corporelle et sociale dans lequel les gens n'auraient plus peur ni de leur double parenté avec les animaux et avec les machines, ni des idées toujours fragmentaires et des points de vue toujours contradictoires. Donc ça, c'est deux choses. Donc l'animal, c'est ce qui dissout la frontière humaine, mais c'est aussi ce qui permet de se dire, ben oui, on n'est pas obligé toujours d'avoir une pensée unifiée, une pensée unique sur quelque chose. Il est possible d'avoir des morceaux de pensée, on doit pouvoir penser autrement. Ça va de pair avec, bizarrement, le travail de certaines éthologues. Je pense à Alexandra Horowitz, qui n'a pas travaillé sur les chiens, mais sur un chien, sa chienne Pump. Elle a travaillé sur sa chienne Pump. Elle a fait un livre, tout ce qu'il y a de plus théorique, sur sa chienne, en disant « c'est cette chienne-là, et c'est pas forcément les chiens ». Donc cette espèce de façon de généraliser, qui est aussi le comportement même des esprits qui réfléchissent sans arrêt sur l'espèce. Alors voilà le livre américain de Donna Haraway, donc « Singes, cyborg, enfin, simians, cyborgs and women », donc tout ça mis sur le même plan, hein, les singes, des singes, des cyborgs et des femmes, quoi. Tout ça mis sur le même plan, comme c'est le titre un peu provocateur. Non, j'en arrive à la suite. Voilà. Alors oui, on va faire entrer en scène quand même la SF. Donc je conclue, disons, sur la partie philosophique pour faire entrer en scène la SF. qui intéresse Donna Haraway. C'est assez intéressant de voir que dans le manifeste Cyborg, il y a toute une part de lecture de la SF principalement américaine de l'époque, alors ni canadienne, ni vraiment française, ni d'autres pays, mais enfin plutôt américaine. Et Haraway écrit qu'elle est redevable à des écrivains comme Joanna Russ, Samuel Delany, John Varley, James Tiptree, Octavia Butler, Monique Wittig, une française américanisée au milieu, et Vonda McIntyre. Donc vous avez reconnu là des écrivains féministes. Vous les connaissez, hein, James Delany, Samuel Delany, un écrivain féministe, Octavia Butler, etc. Alors je commence avec l'exemple du vaisseau qui chantait. Alors l'illustration de couverture du bouquin ne rend peut-être pas bien compte de l'histoire. Donc c'est Elva, ça a été publié en 1969 par Anne McCaffrey. Le personnage est un personnage encapsulé de femme qui vit à l'intérieur d'une capsule et qui a développé une vie beaucoup plus longue que celle des humains, et finalement elle représente une supériorité femelle qui ressemble à celle des insectes, à celle des sociétés d'insectes. Et c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans la SF, c'est l'assimilation de l'humain, non pas tant avec un mammifère, comme on pourrait s'y attendre, mais avec un insecte. Donc, par exemple, le fait qu'elle vive très longtemps et qu'elle choisisse ses mâles et qu'elle ait plusieurs mâles, ça rappelle vraiment les affaires d'abeilles, hein, où le mâle, ou des fourmis, enfin, où le mâle disparaît sitôt fait sa fonction reproductrice, etc. On retrouve la même thématique chez James Tiptree Jr., donc Par-delà les murs du monde. Donc dans ses romans, les extraterrestres sont des insectes, des calmars ou des raies mantas de 30 mètres de haut, donc des personnages qui sont là aussi assimilés fortement à des insectes. Des insectes, mais aussi des animaux marins. Alors là, j'adore cette illustration de Superluminol de Vonda McIntyre. Alors Vonda McIntyre était une élève de Delany, hein, du grand Samuel Delany, et donc elle a écrit de la SF aussi, si vous la connaissez pas très bien. Alors elle campe ici une fille orque qui s'appelle Orca, c'est facile, et elle abandonne son... Alors elle est cétacée, c'est-à-dire elle est très très efficace comme humain-animal. Elle est une cétacée, vraiment, mais elle en a assez d'être une cétacée. Elle veut devenir pilote. Pour devenir pilote, il faut se faire transplanter le cœur. C'est humain, animal, machine, hein, vraiment les trois. Donc on lui ouvre le cœur, on sort le cœur, on l'écrabouille et on le remplace par une machine. Et donc elle se fait remplacer son cœur par une machine pour devenir pilote. Donc on appelle ça transplantation cardiaque. Dans le roman, c'est pas une transplantation, c'est une suppression du cœur pour être remplacé par une machine. Donc finalement, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que elle est déjà orque, fille orque, mais elle veut devenir encore autre chose, vous voyez, et accéder à un état machinique. Donc, de l'humain à l'animal et de l'animal à la machine, hein, on a une espèce de mouvement comme ça. Alors, ça, c'est le serpent du rêve. J'ai mis la version française, que c'est la seule illustration qui essaie de rendre compte du caractère double du personnage. Alors, encore une fois, c'est pas un animal supérieur, c'est toujours des cétacés, des insectes ou des... Enfin, c'est pas les mammifères qui sont les plus proches des humains qui sont pris vraiment comme exemple, c'est au contraire des choses qui sont réputées repoussantes, hein, comme les serpents. Donc ça, c'est Dream Snake, et là vous voyez, la guérisseuse s'appelle Snake, elle a des serpents et elle s'appelle Serpent. Donc elle voyage à travers les déserts noirs post-apocalyptiques à la recherche de serpents. Si on était Deleuze et Guattari, on dirait qu'elle est dans un devenir serpent, hein, qui a tenté d'être illustré d'ailleurs par l'illustrateur, a tenté la chose, montrer comment la fille devenait serpent. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle enlève ses lunettes noires de star et dessous il y a la fille serpent. Je crois que les lunettes noires n'étaient pas nécessaires, mais on voit comment donc elle est hybridée en quelque sorte avec le serpent. Alors il y a également bien sûr Elisabeth von Harburg, les contes de Tyrannaël. Elisabeth von Harburg est dans nos murs, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc on voit ici comment les licornes dans les contes de Tyrannaël, les licornes sont des êtres non humains intelligents, ainsi que d'autres animaux d'ailleurs. Et le rapport aux humains les humains changent avec leur rapport aux licornes, en ce sens que leur intelligence animale se développe également. C'est-à-dire qu'on est là encore dans un processus, chez Elisabeth von Harburg, de passage d'humain à l'animal. Mais là, c'est plus l'animal fabuleux, licorne, qui est au centre du processus de l'intelligence devenue intelligence animale. Aujourd'hui encore, on peut dire que tout ça c'est bien joli, mais que la réalité de l'animal, c'est encore un animal patriarcal, dans les petits films de Disney, par exemple, vous avez des petits animaux de films pour enfants, c'est toujours des petits mâles incarnant une malitude, une performance de genre très chiante, du genre Mickey, Donald. Enfin, on est toujours dans le même schéma où le petit enfant est supposé voir que le neutre, l'universel, l'humanisme, c'est par définition le masculin. Leçon qui est un peu répétitive et un petit peu ennuyeuse. Ça n'a pas grand intérêt, c'est devenu un peu un cliché, tous les films qui sortent, il y a le petit héros. Alors ça, c'est toujours quand on regarde n'importe quelle affiche, vous avez le mec devant et derrière, vous avez les monstres. C'est toujours marrant. Donc l'homme et les monstres. Alors derrière, il y a les monstres, il y a la femme, le noir, la bête, celui qui est couvert de machin, de poils et de trucs. Enfin, regardez les images, simplement les photos de films, quoi, les affiches de films, c'est toujours le même pattern du petit héros masculin devant. Alors, s'il faut tenir un livre, en ce moment, il y en a un qui tient un livre et derrière, il y a la fille et les monstres. Sinon, il tient un outil quelconque. Enfin, toujours l'idée de dire, vous êtes un homme, il faut vous conformer à la performance de genre masculine. Vous êtes une femme, il faudra être derrière avec les monstres. Vous êtes un monstre, ça peut arriver, on ne sait jamais si les extraterrestres sont parmi nous déjà. Bon, ils sont censés regarder la fille, genre, ah oui, je suis un monstre, donc je suis derrière avec les femmes, les noirs, etc. Enfin, vraiment, c'est toujours cette espèce de bipartition super pénible. Et ils sont très ennuyeux, ces gens. Alors, heureusement, il y a les artistes. Et c'est beaucoup moins ennuyeux. Alors, j'abandonne à ces tristes sorts les petits animaux patriarcaux et les petits héros des films d'aujourd'hui pour en arriver à cette magnifique Pietà d'un groupe qui s'appelle Art Orienté Objet. Ce groupe, ça fait très cyborg technologique, hein, c'est le nom d'une base de données. Hein. Si vous avez fait de l'informatique, la base de données Orienté Objet a dû vous donner des frissons et cauchemardesques. Donc ils se sont appelés Art Orienté Objet, à la fois parce qu'ils utilisent des objets et parce qu'il y a eu ce petit côté un peu cybernétique, cette volonté d'intelligence artificielle qui les caractérise. Donc elle, c'est Marion Laval-Jantet, et elle est assistée de Benoît Mangin. Tous les deux, ils ont fondé leur collectif en 1991, un collectif centré sur les questions écologiques, la place de l'humain, le lien étroit avec l'animal, un travail sur qu'est-ce que le vivant, et pour eux, il n'y a pas de solution de continuité entre l'humain et l'animal. Donc, je vais vous montrer rapidement leurs œuvres. Alors ça, c'est une Pietà de 2011, c'est moi qui appelle ça une Pietà, parce que vous voyez comment c'est présenté, enfin des Pietas, on en a vu pas mal, hein. Donc la Vierge, elle est en bleu, elle a un voile, alors elle a une espèce de chèche autour du cou qui fait voile de la Vierge, et elle tient entre les bras, hein, Stabat Mater Dolorosa, non pas le corps du Christ, mais un corps de kangourou mort. C'est la question du massacre aveugle des kangourous en Australie dans les années 2011, qui était accusé de tout détruire, et alors du coup tout le monde allait... tuer du kangourou, quoi. Donc ça rappelait... Donc là, elle humanise en quelque sorte... La bête qu'elle tient dans ses bras, elle est dans un rapport avec la bête, où elle humanise en quelque sorte le kangourou, l'air de dire, comme si on assassinait des humains, comme si c'était justement un massacre d'humains, on avait cassé du kangourou, vous voyez la violence qu'il y a derrière. Voilà une autre image, beaucoup plus rapide à commenter, c'est Félinanthropie en 2007, donc c'est écrit, hein, c'est une performance où Marion Laval-Jantet, cette fois, adopte des postures de chat, et notamment ces espèces de prothèses de jambes qui ne sont pas sans rappeler Aimé Mullins dans Cremaster 3 de Matthew Barney. Donc ça, c'est Aimé Mullins, mannequin, coureuse. Elle a une caractéristique, Aimé Mullins, c'est une femme magnifique, extrêmement belle, qui a été mannequin, qui a été coureuse, championne de course, etc. Et elle a une caractéristique. Ça, je ne sais pas ce qu'il fait là, c'est une erreur, c'est un monstre du début, ça s'est mal mis. Voilà, sa caractéristique, c'est qu'elle a une maladie de naissance, enfin, elle est née sans pieds. Et donc, on a remplacé ses pieds par ses prothèses de guépard, enfin, justement, copiées sur les outils motriciels du guépard. C'est la même chose qu'Oscar Pistorius, qui a défrayé la chronique récemment, c'est exactement la même maladie. Donc là, on voit comment Art Orienté Objet s'est probablement inspiré de cet univers. Aimé Mullins, qui a 12 paires de jambes, je crois, et qui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut mesurer 1m85 comme 1m60, et que finalement, elle dit, alors en tant que sportive, coureuse, elle dit, mais les gens sont prêts à tout pour augmenter leur performance. Là, vous avez des tas de trucs sur Internet là-dessus. Les gens sont prêts à tout. Ils seront prêts à se couper un membre pour augmenter leur performance. Donc là, on va vers le cyborg. Là, c'est un cyborg qui utilise l'animal, puisqu'il s'agit de la patte du guépard et de sa fonction motrice. J'arrive pas à le dire. Sa motricité, la motricité du guépard, qui est utilisée dans les lames de métal qu'elle porte à la place des pieds. Mais enfin, on est aussi dans la machine qui augmente l'humain, c'est-à-dire, en fait, on est au plus près du thème de la cyborg. Ici, c'est une performance de 2011 de toujours Marion Lavalgenté, May the Horse Live in Me, c'est toujours mieux quand c'est en anglais, hein, le nom de la performance, ça fait plus chic. Donc, fais entrer le cheval en moi, laisse-moi vivre cheval, fais-moi vivre cheval. Alors, on est là sur une réflexion sur l'abolition des frontières entre les espèces, sur la collaboration humain-animal. Alors, ce qu'elle fait, donc, non seulement elle se déguise en cheval, là encore, avec des espèces de jambes. Vous voyez, là aussi, elle se déguise. Là c'est le dos. Hein. Elle est comme le cheval. Elle a le poil, la suédine de son short n'est pas sans rappeler le poil du cheval. Enfin, elle essaie de s'assimiler physiquement à quelque chose qui serait comme un cheval, mais surtout, elle se fait injecter du sang de cheval, alors très précisément de l'immunoglobine de cheval. C'est extrêmement dangereux, naturellement, de faire des choses comme ça, mais justement, elle veut braver la frontière des espèces, etc. Alors, il y a un petit commentaire sur Internet qui dit « Oh, c'est bien, comme ça, il y aura l'espoir de traiter les maladies immunes à l'aide du sang des animaux. » C'est pas du tout ce qu'elle a dit, c'est pas du tout ce qu'elle veut faire. Hein. Ça, c'est un commentaire idiot sur Internet. En réalité, c'est pas ça qu'elle veut faire. Elle veut vraiment se faire cheval, transgresser cette pseudo-frontière entre l'humain et l'animal, ce qui est un très grand risque. On n'est pas loin, là encore, de l'influence de Ballard via Cronenberg. Là, c'est une photo tirée de Crash. On voit comment les dispositifs de jambes hein, que Marion Lavalgenté met à ses jambes correspondent étroitement à ces dispositifs qu'on trouve dans Crash. Là, c'est Rosanna Arquette qui porte une espèce de bande comme ça de contention pour ses jambes. Alors, la porosité acceptée et non redoutée de l'humain et de l'animal, finalement, ouvre une brèche hein, dans toutes ces idées métaphysiques comme la barrière des espèces, transforme le monde idéal des classificateurs d'espèces en un monde plus réel, et elle suscite aussi une angoisse absolue chez certains, donc j'en arrive à une espèce de retour du bâton de Wells, qui est cité à tour de bras d'ailleurs, aux alentours de 2007. En 2007, 150 chercheurs anglais ont eu le droit d'expérimenter, avec la bénédiction de leur pays, en mettant des cellules humaines à l'intérieur des animaux, donc à faire des expériences de création d'humains-animaux. Et c'est constamment illustré par cette image, qui n'est jamais créditée, jamais on dit d'où elle vient, et cette image n'a rien à voir avec l'expérience qui a été faite par les Anglais. Les Anglais ont trimballé des cellules, ils n'ont pas créé ça. Donc, alors naturellement, là, il y a un effet de coup de force, hein, puisque les gens qui écrivent ces articles en 2007 sont complètement angoissés, c'est une panique, ils sont effarés devant l'annonce de la création de ces 150 hybrides humains-animaux, ils se demandent quelle tête vont faire ces humains-animaux, et il y a même un article qui dit « Mais allons-nous réussir à maîtriser la génération d'hybrides qui va en naître et qui va nous dominer ?» Donc on retrouve vraiment toutes les grandes peurs qui étaient en 1886, ça n'a pas changé d'un iota. Alors c'est assez intéressant de voir que ce sont donc les œuvres de cette artiste australienne Patricia Piccinini, qui a par ailleurs influencé le réalisateur canadien Cronenberg, encore lui, dans son film Existence. Hein, vous voyez, dans Existence, mélange d'humains, de machines, d'animalité, etc. Ça a été inspiré par Patricia. Donc je vais finir mon petit discours sur Patricia Piccinini, qui ici nous propose une œuvre intitulée The Young Family, qui date de 2002-2003. Alors, donc ça n'est jamais crédité, hein, jamais il y a écrit que c'est une œuvre et que ce n'est pas la réalité. Donc vous cherchez, mettons par exemple, 2007, 150 hybrides humains-animaux sont créés par des chercheurs anglais, et vous trouvez cette image comme illustration, et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc elle crée des images comme ça, qui sont des images, des sculptures, donc dans des matières comme la silicone, dans des matières très proches de la réalisation, et elle utilise de véritables cheveux humains. On sait le poids symbolique de l'utilisation des cheveux humains, l'angoisse que c'est par rapport enfin, au nazisme, les cheveux, enfin, c'est quelque chose de très lourd hein, symboliquement. Donc voilà, pour présenter Patricia Piccinini, qui explore the bond, le lien entre man, l'homme, enfin l'humain disons, et l'animal. Voilà la Big Mother de 2005, où encore ce mélange humain, animal et machine se manifeste de façon très précise. Donc là encore, à l'origine des espèces, qu'est-ce qu'il y a à l'origine des espèces? Alors vous prenez n'importe quelle revue, vous avez une espèce de singe tout roulé en boule et tout petit, et puis il se lève, et à la fin il y a le mec de base avec son attaché-case. Ça viendrait à l'idée de personne de mettre autre chose qu'un mec blanc, et si possible avec un attaché-case, sommet de l'évolution humaine. Alors ça n'arrête pas, et même là, pour la science, qui est pourtant une revue assez sérieuse, nous sort encore le coup de l'odyssée humaine. Alors on voit un mec toujours, donc venu comme ça, et c'est l'odyssée humaine. C'est étonnant ce style héroïque. Quand on pense, il y a un livre qui s'intitule « Quand les humains peuplaient la Terre », donc quand les hommes peuplaient la Terre, mais ils peuplaient rien. C'était les araignées et les pieuvres qui peuplaient la Terre, c'était pas les hommes, enfin certes pas. Il y en avait un par kilomètre carré ou par 50 kilomètres carrés. Donc quand les hommes peuplaient la Terre, tout de suite on dit « Ah c'est formidable, on est vraiment une espèce formidable ». On retombe sur le biblisme général. Donc à cela elle oppose, voilà cette grande mère qui est jamais représentée et dont le dos est tout à fait intéressant. Alors voilà un dos, vous voyez comment tous les archétypes tant de la féminité que de l'animalité sont ici détournés. Ce qui est frappant dans cette image, c'est de voir comment il y a des éléments liés à la machine, notamment ce qu'elle a là. Elle a des espèces de petits trucs bizarres ici, des espèces de petits mécanismes là aussi, qui témoignent du rapport entre vraiment humain, animal et aussi machine. Et puis elle a rien de féminin au sens magazine photoshopé d'aujourd'hui, quoi. Elle n'est pas du tout dans une performance de genre féminine traditionnelle, et l'est encore moins cette petite intitulée The Comforter, qui est en train de réconforter, comme son nom l'indique, une espèce de petit monstre tout doux et tout mignon, et qui a des poils aux pattes comme on n'en fait plus, et des poils sur le visage. Vous voyez comment, là encore, le critère dépilatoire féminin obsessionnel qui est celui de notre civilisation se trouve débouté par ce genre d'image. Et je terminerai sur Undivided, j'espère que ça se prononce bien comme ça, Undivided de 2005, où, alors là, on peut trouver ça atroce ou charmant, selon qu'on est ou non sur l'échelle de Wells, si j'ose dire, si on est d'un côté ou de l'autre. Donc là, l'enfant, vraiment la scène traditionnelle du petit enfant, gentiment couché avec son nounours dans son lit, et derrière, un animal humain qui est son frère le plus proche, de façon très, très nette. Voilà, donc j'ai terminé mon petit discours, je vous donne la parole. Ça va pour l'heure Oui, on a encore un quart d'heure. Oui. Si tu veux installer ton matériel, toi t'es sur PC ?
Oui.
Tu peux installer ton matériel si tu veux, je te rends la prise VGA.
Non, mais
t'as le temps ?
Si, il y a un ordinateur dans toi.
Oui, il y a un ordinateur ici. Donc vous avez des questions ? On m'avait dit de laisser un quart d'heure pour les questions.
Oui, vas-y. Moi j'en aurais plein du coup. Donc, pour revenir au début de la conf, je sais pas comment, bref, quand vous parliez de l'autophagie avec la vache folle, je trouve ça assez amusant parce qu'au final, il y a quand même la maladie du courroux avec le cannibalisme. Quand vous dites que du coup, on se mange parce qu'on donne à manger aux vaches ce qu'on est et qu'ensuite on mange les vaches et que du coup, voilà. Et moi, c'est récemment que j'ai. Plus ou moins, enfin que j'ai regardé un peu vite fait cette histoire de la maladie de Kourou et je trouvais ça assez amusant qu'au final le seul truc qu'on puisse bouffer en viande, on va dire, enfin se bouffer entre nous, bon, au final on finit par être avoir une maladie dégénérative au niveau du cerveau. Enfin c'est une bactérie.
Oui. Qui, du coup, qui, nous infecte, je suis pas qui, au courant de cette maladie.
Mais je crois que c'était, je sais plus sur quelle île ils sont allés. Il y avait beaucoup de cannibalisme et c'était principalement les femmes et les enfants qui étaient atteints parce qu'on leur donnait la cervelle à manger des hommes. Et enfin plutôt des ennemis. Mmh. Et du coup, il y avait une bactérie, et donc ça donne la maladie de Kourou, quoi. Donc,
ah oui, mais coup, ça veut dire que toute la cervelle humaine est pleine de bactéries.
Ouais,
c'est
pour ça, quoi.
Bah, les grandes histoires de. Qu'est-ce qu'il y a comme grande histoire de cannibalisme? Il y a eu l'histoire du radeau de la Méduse avec Jéricho en 1819.
Qui subissait. Enfin voilà, du coup, oui. Il y avait beaucoup de gens qui. Et du coup, ils traitaient ça aussi via. avec les serial killers, enfin oui, les serial killers qui se nourrissaient ensuite de leurs victimes et tout ça, quoi. Enfin, bref, voilà.
Oui, ce qui est frappant, cette histoire d'autophagie, c'est comment ça a pris, ils ont pris conscience. Parce qu'on a, en 1973, il y a un type qui hurle « Soleil vert est fait avec des gens » bon, déjà, il y a une espèce d'angoisse. Rappelez ce film, « Soleil vert is made from people ». Donc, le gars hurle, et on sait qu'il va être... Enfin, il n'est pas du tout messianique, on sait qu'il va être arrêté. Enfin, vous êtes d'accord avec cette interprétation. On sait qu'il va être arrêté et donc c'est une dénonciation qui n'en est pas une. Enfin, il y en a qui disent oui, à la fin il dénonce Soleil Vert. Non, il dénonce rien du tout, il essaie et puis ça rate. Enfin, on est tous d'accord sur là-dessus. Ouais. Donc c'est vrai que cette angoisse autophagique, elle monte. Tout à l'heure, en parlant avec Catherine Dufour, j'ai été frappée de voir qu'elle était encore très proche de thématiques angoissées de surpopulation humaine comme on les avait dans les années 70. Notamment le roman qui s'appelle Tous à Zanzibar. Un roman de science-fiction historique, hein, je sais plus, le nom de l'auteur m'échappe, ça vous dit rien. Tous à Zanzibar, oui, c'est ça, voilà. Tous à Zanzibar, on vivrait tous à Zanzibar, dans l'île de Zanzibar, et toute l'humanité serait à Zanzibar, et donc c'est l'idée de l'abominable surpopulation, et elle a encore de ces angoisses de surpopulation aujourd'hui. Quoi. C'est des angoisses tournent, hein, comme ça, toujours un peu les mêmes. Tu avais d'autres questions ?
Ouais. Vous dites que le concept de patriarcat au niveau des dédicaces avec les auteurs littéraires, enfin, c'est patriarcal. Et du coup, vous faites une dédicace, vous.
Ah ben oui, parce qu'on me dit de la faire. Oui,
ouais, mais voilà. Mais est-ce que du coup, vous êtes dans la dénonciation ou dans la critique?
La constatation. Non, je suis dans la constatation.
Mais
que
du coup,
c'est
vous acceptez de prendre part à ça?
Ah oui, bah bien sûr. Ouais. Bah, de toute façon, dès que je parle, je prends une performance. De toute façon, on fait ça, tout le monde fait ça. Dès que quelqu'un parle en position d'autorité, une fille, elle baisse sa voix de ton. Pourquoi ? C'est instinctif, parce que immédiatement elle se met dans un pattern masculiniste. Elle a compris, la fille, qu'il fallait avoir une performance masculine de genre. Donc, pour être prise au sérieux, moi je sais que dans les réunions de travail, il faut que je baisse un peu la voix et que je prenne une certaine forme de carrure. Je joue une performance masculine qui en général est suffisante pour qu'on m'écoute. Ça a l'air idiot, hein, mais je conseille le truc à tout le monde, enfin les garçons et les filles et les autres et le reste du monde. Faites donc comme ça. Donc en fait, on ne vit pas sur des réalités, on vit sur des fantasmes, sur des idées. J'ai l'impression. Hein. Bon, quant au dédicace, je ne savais même pas que je dédicassais. Quand je suis arrivée, je dis « Oh, on me fait dédicacer. » J'ai rien à dédicacer. Non, mais souvent, je suis debout. Enfin, c'est vrai que j'aime pas trop la position de la dédicace, mais bon, c'est idiot. C'est-à-dire, j'ai vu les rôlistes et j'ai vu qu'ils faisaient toute autre chose quand ils arrivaient sur un festival que les littéraires. Les rôlistes, ils arrivent pour jouer et pour se mettre ensemble. Et pour créer ensemble un mouvement, un peu comme si on faisait un groupe de parole. C'est pas vrai.
C'est
peut-être pas vrai, c'est peut-être une impression de début.
Moi, j'ai une copine qui aime bien les idées féministes. Et j'ai rencontré un jeu de rôle, et pour elle, le jeu de rôle, et surtout le monde du GN, ça peut être parfois très dur.
Très dur de quel point de vue ?
D'être une fille, il peut y avoir des commentaires assez...
Ah oui.
Assez direct.
Le GN, ben oui, moi je connais une fille qui jouait un rôle dans un GN et ils l'ont transformée en sorcière. Elle a été terrorisée par l'expérience. C'est-à-dire que le GN, on vit vraiment la chose. GN, grandeur nature, hein, on joue grandeur nature. Et donc tout le monde s'est mis à crier Haro sur la sorcière, c'était dans le scénar. Mais le fait d'être brusquement la sorcière, sur lequel tout le monde criait Haro, ça lui a créé un trauma. Elle n'a plus jamais joué au GN après. Ça a été son dernier GN. Parce que l'expérience a été d'une trop grande violence. J'ai connu aussi un homme qui écrivait des GN et il écrivait un GN qui s'appelait Itemissa Est, et il obligeait les gens du GN à supporter la messe pendant des heures et des heures et des heures de messe. Et les gens supportaient ça, et il essayait de montrer à quel point on pouvait forcer les gens à supporter des choses insupportables. Pour lui, c'était un Belge anticlérical, hein, donc pour lui, la messe était l'abomination. Et comment on pouvait... Donc il avait travaillé là aussi la résistance humaine, pas seulement des femmes, mais la résistance des humains à supporter ce qui pour lui était l'abomination totale, la messe.
Oui, et donc, puis je rajouterais, en fait, ma copine aime aussi le métal, et pour elle, le milieu du métal, par exemple, dans les festivals, c'est complètement différent, quoi.
C'est-à-dire, c'est pas...
Quand il fait trop chaud, c'est pas étonnant de voir des gens complètement nus se promener, que ce soit des hommes ou des femmes, et il n'y a aucun commentaire qui ressort en particulier.
Ah oui, donc il y a des milieux qui sont peut-être plus...
C'est vraiment,
alors moi, le monde du GN et du jeu et du métal...
Alors après, il y a des gens qui vont me contredire, il y a toujours des exceptions, mais pour elle, c'est ça. C'est...
Oui, ben c'est-à-dire, c'est vrai que c'est facile quand on est une fille de se mettre dans des trucs de fille où, on ne sera pas contesté. Hein. Cuisine, nettoyage, soins, etc. Mais donc, il faut. C'est compliqué ces affaires-là. C'est compliqué.
Mais dans, dans les festivals de métal, les hommes ils contestent pas que les femmes se mettent à poil. Hein.
Mais, on revient à la discussion de ce matin.
Ils n'en font pas la remarque non plus, quoi.
Oui, ben bah oui, bah le tout, c'est si personne ne fait la remarque, ça veut dire que c'est un peu comme les douches mixtes hein, dans les films comme Robocop ou dans Battlestar Galactica, la douche mixte. C'était peut-être.
C'est désérotisé dans ces contextes-là.
Oui, c'est ça. Là, par exemple, manifestement, d'après ce qui.
C'est un naturisme, en fait.
Oui, c'est désérotisé. Ou quand on est chez un médecin ou des choses comme ça.
Oui, voilà.
Donc, c'est effectivement dans le contexte métal. Moi, je ne connais pas du tout. Hein, la musique.
Et pour en revenir à l'homme animal, moi, ce qu'on peut constater aussi avec la reconnaissance, je dirais enfin, en termes de loi du droit des animaux, et cet été, en plus, moi je suis soigneur animalier, donc.
C'est bien ça.
De voir en fait peut-être que la barrière de l'espèce est existante, mais c'est pas une grosse barrière, mais c'est une suite de. C'est pas combien de petites barrières, peut-être même très très fines à la suite, puisque le droit des animaux est en fait une question de la conscience. Est-ce que les animaux sont conscients, ressentent des sentiments? Aujourd'hui, avec le travail des. C'était un travail de philosophie, et d'éthologie. Et on voit aujourd'hui que, oui, il y a beaucoup d'animaux, notamment inclure déjà tous les mammifères, ça va être assez facile. Mais des choses qui ne sont pas mammifères, les oiseaux. Ça va être très facile, on va avoir une énorme masse de comportements qui prouvent bien que c'est des êtres extrêmement conscients. On va pouvoir communiquer avec eux. Je pense que la fauconnerie,
les corbeaux,
spectacle de volerie, c'est des poser questions. Ils savent ce que c'est ces animaux, ils savent ce dont ils ont besoin, et les animaux, en échange, ils le font bien volontiers aussi. Ils finissent par se croire ce que nous, on veut qu'ils font pour les spectacles, pour avoir une chasse.
Donc ils acceptent une collaboration avec
les humains. Il y a vraiment une collaboration. Après, moi, j'ai fait aussi, en tant que soigneur manier, un peu chez les reptiles.
Il n'y a pas grand-chose à refaire.
Alors, les reptiles, c'est simple, c'est du tout ou rien. Il y a quelque chose qui se passe, ça s'active ou ça ne s'active pas.
Ouais.
Oh
là
là. Il y en a qui aiment bien ça. Moi, j'ai trouvé ça quand même un peu moyen. Il y a zéro sentiment, zéro amour, ça n'existe pas chez eux. Ouais. Et c'est leur comportement de chasse. Vous leur mettez un rat qui a été décongelé dans l'eau chaude devant eux. Ils se comportent effectivement comme si c'était quelque chose de vivant. Ils vont l'enrouler, ils vont l'enserrer, ils vont le presser, ils vont l'avaler comme un comportement de chasse. Parce que le comportement est déjà en eux.
On n'est pas tout le temps en train de caresser
comme
les
ils appuient sur eux. Et donc là, c'est vraiment. Pour moi, l'animal humain,
de toute façon, ça pose un problème.
Ophidien, c'est quelque chose
si on continue à raisonner par espèce, effectivement, ça pose un problème. À ce moment-là, j'ai un moustique qui me pique. Au nom du droit du moustique, faut aller au bout. Là. À ce moment-là, j'ai pas le droit de toucher un moustique. C'est presque du zen bouddhiste, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pour ça, si on continue à raisonner par espèce, avec la notion d'espèce, de race, de classe, enfin, cette façon de ranger toujours les humains dans des genres, dans des classes, dans des races, et puis les animaux, les ci, les ça, c'est ce qui a essayé de casser le fameux bouquin d'Horowitz, où elle essaie de montrer que c'est ce chien et pas un autre. C'est pas les chiens. C'est ça, c'est intéressant comme débat. Mais c'est vrai que là, manifestement, votre expérience, c'est les oslos, c'est pas la même chose que les reptiles. Quoi. Et donc, le droit des animaux, il va jusqu'où, quoi? Est-ce qu'on donne le droit? Est-ce qu'ils prennent? Ils vont le prendre eux-mêmes.
Les éponges, c'est des animaux.
Je vais éteindre ça pour que Sylvie puisse mettre ça.
Les seules espèces animales au monde, où quand vous brisez un individu en deux, ça donne des individus.
Oui.
Jusqu'à là, si j'arrache un chien en deux ou un humain en deux, ça ne va pas donner deux chiens ou deux humains.
Non, non, ou alors il faudrait que l'évolution se fasse de façon. Ça va, ça c'est.
Quelle différence vous faites alors entre l'homme et l'animal ?
L'humain ? Entre l'humain et l'animal. Moi, je dis pas l'homme. Hein. L'humain, on en a marre de dire l'homme. On dit l'humain. On remplacer homme par humain dans toutes les expressions. Humain des cavernes, droit des humains, ça ira mieux. On verra enfin de quoi on parle. Mais en fait, d'ailleurs, on parle de quoi ? Quelle différence je fais entre l'humain et l'animal ? Moi ? Justement, j'en sais rien. Je me dis, je suis confronté à cette espèce de mouvement d'espèce. Alors, il y a les reptiles, les oiseaux, les nanas, les nains. Et on s'arrête tout. Donc, c'est ça la question. Est-ce que... Un insecte, un ciron, est-ce que...
Mais est-ce qu'on raisonne que du point de vue matérialiste, c'est-à-dire la génétique, ou est-ce qu'on parle d'âme comme les religions, on parle des vents, ou d'esprit, ou de conscience?
Bah, de conscience, comme disent les spécialistes des animaux, oui, de conscience. Est-ce que c'est ça le critère? Là, il faudrait réfléchir, parce que de toute façon, c'est balbutiant. La défense des droits des animaux, c'est quelque chose qui est balbutiant. Et les gens n'ont pas encore bien défini leur concept. Parce que quand on regarde les droits des animaux, en fait, c'est le droit des mammifères. Enfin, je crois. Quand les gens disent le droit des animaux, ils entendent mammifères, même s'ils ne le disent pas. Après, ils entendent quelques oiseaux du genre corbeau, particulièrement brillants, des animaux.
Ça dépend aussi, c'est au filtre de ce à quoi ils nous servent. Parce que si j'ai bien suivi le truc de l'actualité d'hier, je ne sais pas si ça a été voté ou pas, mais ça passe à l'Assemblée, une discussion sur transformer le statut des animaux de biens meubles à être sensible.
Oui, est-ce que ça
sensibilité.
Oui.
Ça s'arrêtait quand même aux chats, aux chiens. Donc éventuellement, il pourra y avoir des gardes alternés. Enfin, on pourra aller en justice. Ça peut arriver, aller jusque-là. Par contre, ça ne concernait pas les vaches, les tiers, et ni le gibier. Voilà.
En fait, c'est ça, c'est dès qu'on bouge la frontière, il y a des conséquences juridiques.
Ouais, mais le propre de la conscience, oui. C'est pas le fait que c'est mammifère ou pas, c'est vraiment lié à ce à quoi ils nous servent en tant qu'humains.
Oui, animaux de compagnie. Là, tu es vraiment en train de parler des animaux de compagnie. Parce qu'il y a eu tout un mouvement sur les animaux de compagnie, toute une réflexion. Justement, le bouquin d'Haraway, mais aussi d'autres choses, sur les animaux de compagnie. C'est un thème central aujourd'hui. Donc on en est où, là? Ils ont décidé que c'est...
Je ne sais pas, je ne me suis pas tenue au courant, mais je pense que ça va passer. Le truc sur les animaux domestiques, plusieurs fois qu'on en parle...
C'est passé cet été, ça. Moi, j'étais en plein travail, et on était avec des... J'étais plutôt avec des bœufs, etc.
Mais il y a un texte qui a été discuté hier, à l'Assemblée, justement là-dessus. Et ça concernait pas, parce que justement...
Ça concernait même pas, oui.
Les éleveurs s'inquiétaient, disaient, on ne pourra plus manger de viande. Enfin, les chasseurs aussi, il y a un lobby qui est important. Donc,
les chasseurs, ils ont des quotas.
Donc autrement dit, pour répondre à la question, finalement, on a remplacé l'espèce, au sens soi-disant scientifique, par le juridique, les découpages juridiques. C'est-à-dire on ne peut pas toucher aux vaches, sinon on ne peut plus les manger. Les chiens et les chats, on ne les mange pas chez nous. Dans le cadre de nos lois. Et donc, à ce moment-là, on les considère comme qui va garder le chien, quoi. Ça va être, en cas de séparation d'un couple, qui garde le chien. Ça se règle plus au couteau comme avant, mais avec la loi, c'est ça l'idée, quoi. C'est donc des frontières juridiques qui se substituent à des frontières anciennement d'espèces. C'est ce qu'on peut conclure comme ça.
Il y a aussi effectivement les besoins. Enfin, je ne sais pas s'il y a des végétariens ici. Moi, je ne suis pas végétarien. Je peux accepter de manger de la viande. Et je sais qu'en France, peut-être pas dans tous les abattoirs, mais dans certains abattoirs, ils passent de la musique, dans n'importe quelle musique, à chaque fois, pour calmer les animaux. Ils les passent un par un et ils ont des pistolets à saumon, en fait. Avant d'abattre l'animal, l'animal est bloqué, tranquillement mis dans un coin. Et ils vont assommer l'animal par un grand coup de masse. Non, il y a un pistolet assommant extrêmement précis qui vont tirer dans un endroit qui va toucher un nerf. Du coup, l'animal va s'assommer et ils vont pouvoir abattre l'animal à ce moment-là.
Oui. Donc.
Je pense que les textes de loi, faut pas penser que c'est quelque chose d'extrêmement philosophique, symbolique. Ça réfère aussi à notre besoin de nos sociétés actuelles.
Oui, d'avoir des pratiques plus humaines, entre guillemets, plus douces, c'est ça ? Pour faire des choses comme tuer les bêtes.
Avoir une pratique plus humaine envers les bêtes, c'est dans la définition. C'est-à-dire que c'est plutôt qu'un rapport entre l'homme et la bête, c'est un rapport envers nous.
Ouais, c'est bien.
Notre image de nous-mêmes.
Ça paraît une bonne conclusion, c'est-à-dire qu'en fait, on revient finalement à nous-mêmes en tant qu'humains.
Oui.
comme miroir et référence du rapport qu'on peut avoir à l'animal. Il n'y a encore aucun animal qui a dit « ne me libère pas, je m'en charge ». Mais ça va venir.